Time 2016. Swing Time, une émission préparée et présentée par Claude-Alain Christophe et Dominique Houguet. Sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Messieurs, bonjour.
Bonjour Martine.
Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel.
Oui, aujourd'hui, c'est une grande première pour Swing FM, effectivement. Je vais donc aujourd'hui vous parler du prochain concert du Hot Club de Limoges qui aura lieu le mardi 1er mars au Centre culturel Jean Gagnant et qui présentera un sextet dirigé par le saxo-ténor Michel Pastre, l'un des meilleurs jazzmen français actuels. Michel Pastre a participé à de nombreux concerts du Hot Club de Limoges. Mais le temps passe plus vite qu'on ne le croit et je viens de constater avec effarement que nous ne l'avions pas, enfin du moins le Hot Club ne l'a pas accueilli à Limoges depuis 2009. Bientôt 7 ans. Il devenait donc urgent que nous profitions à nouveau de son grand talent et de sa nouvelle formation. Petite parenthèse avant cette présentation, on ne répétera jamais assez qu'après l'abolition de l'esclavage, nous devons la création du jazz à la façon originale dont les Afro-Américains adaptèrent les airs qu'ils entendaient à leurs codes musicaux ancestraux. Si le jazz est donc un art de création, il se rattache en même temps à une tradition incontournable. J'insiste sur ce point qui est particulièrement important pour les musiciens d'aujourd'hui, car ces codes musicaux disparaissant progressivement de la communauté afro-américaine, les jeunes musiciens ne peuvent les acquérir et devenir de vrais jazzmen qu'en écoutant les enregistrements des grands créateurs de ce langage. Autrement dit, avant de devenir musiciens, ils doivent être des amateurs de jazz. Si j'ai fait cette digression, c'est parce que ce parcours est bien, je crois, celui qu'a suivi Michel Pastre, qui, avant de devenir le grand professionnel que nous connaissons, était un amateur de jazz. Et c'est à ce titre qu'il a découvert le grand guitariste Charlie Christian, qu'il admire profondément, et à qui il a eu envie de rendre hommage. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais interroger Michel Pastre, puisque nous avons la chance de l'avoir au téléphone. Bonjour Michel. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ?
Oui, ça me plaît assez, cette définition. C'est tout à fait...
Alors, est-ce que ça correspond... Ouais. Comment toi, explique-nous comment tu as découvert le jazz ?
Alors, le jazz, je pourrais pas dater le moment où je l'ai découvert parce que j'ai l'impression que j'ai toujours baigné là-dedans grâce à mon père, qui était un passionné. Et
c'est souvent comme ça, effectivement.
Voilà, et qui est malheureusement récemment disparu, et je lui rendrai hommage pour le concert du 1er mars. Et donc je lui dois évidemment ma passion du jazz et tout ce que j'ai pu entendre et admirer, que ce soit en disque ou en concert, puisqu'il m'a amené aussi au concert de jazz, et dans les années 70-80, j'ai eu la chance de voir... encore les plus grands musiciens.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait encore beaucoup à cette époque-là.
Enfin, il y en avait beaucoup à cette époque, oui.
Ouais. Et oui, alors donc, ça correspond bien à ce que je disais. Avant de devenir professionnel, tu étais amateur, donc.
Oui, j'étais un passionné, bien sûr. Bon, je pense que je me souviens, je devais avoir 3-4 ans quand j'ai commencé.
Ah oui, en effet.
Mes propres 45 tours.
Tu nous as tous battus, alors, parce que moi, j'ai découvert le jazz, je devais bien avoir 13-14 ans. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas un père amateur de jazz. Et alors, je vois que la tradition se poursuit chez les Pastres, puisque je sais que ton fils, maintenant, est devenu aussi un passionné de jazz, et que je crois qu'il s'oriente, toi aussi, peut-être vers une carrière professionnelle.
Et oui, c'est un grand bonheur de constater que César a également pris le flambeau. Ça a plu énormément.
Alors, je l'ai entendu au piano au Mondor il y a quelques années. Je m'en souviens encore. C'était épatant. Hein.
Et mais là, il a carrément bouclé sa première année en tant que musicien professionnel.
Et ben, c'est parfait. Voilà, et ben, alors, on l'accueillera un séjour à Limoges aussi.
Je l'ai également appelé au cours de l'année quelques fois pour jouer ensemble.
C'est
et
bien.
Il a fait quelques remplacements de qualité, même avec le big band que je dirige. Il a su relever le défi.
Et ben, voilà. C'est formidable.
je lui souhaite plein de belles choses.
Absolument, nous aussi. Michel, alors, pourquoi cet hommage à Charlie Christian ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que évidemment, Charlie Christian, il fait partie de mon panthéon de héros, de grands musiciens. C'est une figure des années 40. Oui. C'est quelqu'un qui est relié à Lester Young de par sa manière de chorusser, qui est évidemment aussi directement relié à Count Basie, puisqu'il a enregistré avec Benny Goodman, évidemment, et John Hammond, qui est aussi le producteur qui rassemble un peu tout ce monde-là, et tout ça, pour moi, c'est un même monde. Donc, c'est une circonstance qui fait que j'ai joué aussi pas mal de fois avec des musiciens qui ont cette approche aussi du swing et cette passion des années 30-40. Ça faisait 5-6 ans que j'en parlais déjà au guitariste David Blancorn, oui. Et à la rythmique composée de Sébastien Gérardot et Guillaume Nouveau. Donc voilà, ça germait depuis quelques années.
D'accord. J'allais te demander justement pourquoi avoir choisi David, mais c'est vrai que il a un son il utilise sa guitare un petit peu à la Charlie Christian, c'est incontestable.
Oui. Tout à fait. Et puis sans faire de la copie.
Non, absolument. C'est ce que je dis émission, si tu l'entends, tu entendras que je dis c'est pas du papier du copier-coller, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, je voulais te poser une question parce que je trouve que finalement, quand j'écoute justement les désenregistrements pour préparer cette émission, j'ai réécouté des enregistrements de cette période avec Basie, Goodman, etc. Et je me demande si David ne ressemble peut-être pas il ressemble beaucoup à Charlie Christian, mais il ressemble peut-être encore plus à celui qui a été l'inventeur de la guitare électrique, c'est-à-dire celui qui jouait avec Basie, qui était aussi un grand tromboniste.
Eddie Durham.
Je me demande si David Blancorn ne ressemble pas encore plus à Eddie Durham qu'à Charlie Christian.
Ah, c'est possible. Mais en tout cas, David, je sais qu'il il est, comme beaucoup de musiciens, il est influencé par beaucoup de guitaristes. Et c'est une inspiration, c'est une vocation.
On cherche pas à faire du plus, bien sûr.
En plus la formation telle qu'elle a été créée justement sans piano et sans clarinette se veut
original
aussi avec de cette manière là donc on a fait des adaptations tout en restant fidèle bien sûr à
l'esprit de la musique,
bien sûr. Et après chacun s'exprime avec
sa personnalité,
ses qualités et sa propre culture.
Absolument. Eh bien écoute Michel, je te remercie d'être intervenu au cours de cette émission et puis on se réjouit de te revoir bientôt sur scène à Limoges, parce que c'est vrai que j'avais pas réalisé que ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas eu la chance de t'entendre. Mais je pense que d'ici là, on va se revoir, puisque je vais aller faire un petit saut au 106 No Jazz, et je pense qu'on va se rencontrer là-bas.
Oui, avec plaisir, bien sûr.
Bon, Michel, merci beaucoup, et puis à bientôt.
Merci beaucoup, Claude Alain. Merci, bonne continuation. Hein.
Merci,
c'était un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors donc, nous reprenons le cours de notre émission, et nous écoutons d'abord dans cet enregistrement qu'a fait Michel Pastre pour rendre hommage à Charlie Christian, nous écoutons d'abord Woolly Cats, que Charlie Christian enregistra au sein d'une formation dirigée par Benny Goodman en 1940, et comprenant sa nouvelle recrue, le trompette Cootie Williams. Ici, la nouvelle recrue à la trompette de Michel Pastre s'appelle Malo Mazurier. Remarquons que David Blankhorn joue bien dans cette formation le rôle de Charlie Christian, mais sans chercher à en faire une copie servile. Si son jeu est naturellement un peu plus heurté, moins coulant que celui de Charlie Christian, il maîtrise, comme lui, parfaitement le très beau son de sa guitare électrique. Après l'exposé du thème, interviennent ici en solo Michel Pastre, David Blankhorn, Malo Mazurier et Guillaume Nouhaud, auteur d'un beau solo de batterie. Alamo, Michel Pastre expose le thème de façon chantante, puis laisse la place à Malo Mazurier et David Blankhorn pour des solos fort bien développés. On le retrouve pour le chorus final, bien soutenu par son jeune trompettiste.
<t'en>
Charlie Christian a été le premier grand soliste sur la guitare électrique et reste encore un modèle pour beaucoup de pratiquants de cet instrument. Il mourut très jeune et sa carrière de vedette ne dura que de 1939 à 1941. Deux années pendant lesquelles il joua la plupart du temps au sein d'une petite formation dirigée par Benny Goodman. C'est avec Benny qui en est le compositeur qu'il enregistra Breakfast Food, qui est repris par le sextet de Michel Pastre. Tous les musiciens apparaissent ici en solo, y compris le bassiste Sébastien Girardeau. Dans ses interventions, on retrouve ici un Michel Pastre rageur qui évoque ce qu'on appela les Texas Tenors. ( Shiver, c'est un thème riff typique des années 40, co-signé par Lionel Hampton et Charlie Christian. Encore une fois, Michel Pastre intervient le premier pour un solo très inspiré, suivi par Mazurier, puis Blenkhorn, dont le solo est parfaitement dans l'esprit de Charlie Christian. On note là encore l'excellent travail de la section rythmique. Écoutons maintenant Pigeon the Devil, morceau dans lequel l'excellent contrebassiste Sébastien Girardot est en vedette. Le titre fait d'ailleurs référence à la formation des Walter Page Blue Devils que dirigea le contrebassiste Walter Page à Kansas City au début des années 30 et à laquelle participèrent Count Basie et plusieurs musiciens de son futur orchestre, dont Walter Page lui-même. C'est un blues qui avait déjà été enregistré en 1938 par une petite formation intitulée Kansas City Five, composée de musiciens de l'orchestre Basie, mais sans piano, comme c'est le cas pour ce quintet dirigé par Michel Pastre. Ce Kansas City Five avait enregistré quelques plages avec le tout premier et excellent guitariste électrique Eddie Durham, qui fut suivi de peu par Charlie Christian. J'ai fait remarquer tout à l'heure que le jeu de David Blankhorn n'était pas un copier-coller de celui de Charlie Christian. En préparant cette émission, j'ai réécouté ses plages avec Eddie Durham et il me semble que par son attaque des notes un peu plus marquée que Charlie Christian, ce qui rend le jeu un peu moins fluide, le jeu de Blankhorn lui se rapproche peut-être davantage encore de celui d'Eddie Durham. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Michel Pastre. Dans ce Pigeon the Devil, en dehors de David Blankhorn et Sébastien Girardot, excellent à la basse, on entend un beau solo de Michel Pastre qui nous rappelle que Lester Young reste une de ses sources d'inspiration, ainsi qu'un très bon chorus bouché par Malo Mazurier dans l'esprit de Buck Clayton. Et pour terminer cette présentation, nous enchaînerons avec Solo Flight, une sorte de mini-concerto pour guitare et orchestre que Charlie Christian avait enregistré en compagnie du big band de Benny Goodman. Ici, deux soufflants seulement pour répondre à la guitare, mais qui remplissent si bien leur rôle qu'on croirait la formation nettement plus importante. Nous écoutons Pigeon the Devil qui sera suivi de Solo Flight. Thank you. Ce CD du Michel Pastre Quintet s'intitule « Charlie Christian Project » et comprend encore d'autres excellentes plages que je vous laisse découvrir, car il sera en vente le soir du prochain concert du Yacht Club de Limoges, qui présentera donc cette formation le mardi 1er mars avec son partenaire habituel, le Centre culturel municipal Jean Gagnan. Et maintenant, je te laisse, Dominique, continuer cette belle émission avec...
Monsieur Guedemansborn.
Comme la semaine dernière.
Voilà, donc la semaine dernière, effectivement, nous avons quitté Clarence Guedemansborn en 1959 sur son célèbre solo de violon « Blues Before Dawn » qui concluait pratiquement les années Peacock, le label où Clarence s'est véritablement révélé. En effet, après une dernière séance en 1960 pour ce label, il devient musicien freelance. S'il continue à se produire sur scène, ses enregistrements durant les années 60 sont notablement réduits. En 65, il réalise néanmoins une série d'enregistrements à Nashville, dont ce beau « Going Down Slow », profondément blues. On ignore les musiciens qui accompagnent Clarence Brown lors de cette session. « Going Down Slow ».
Fun. Lord, if I don't get well no more, I have had my fun. If I don't get well no more. Please write my mother, tell her the shape I'm in. Oh, somebody please write my mother, tell her the shape I'm in. Please pray for me. Yes, and forgive me for all my sin. Yes, because I did wrong and I know it. Tell her don't send no doctor. Doctors can't do no good. I wouldn't take care of myself, but I'll know from now on if I can get over this ailment. Tell you all right now. The next train south, look for my clothes on. On the next train south,
C'est vraiment un chanteur de blues de première classe.
Hein. Ah oui. Autre réussite lors de cette même année 1965, mais au violon cette fois-ci, nous écouterons Long Way Home.
It's a long ways home, but I've got to go. I'm gonna leave you running, walking is much too slow. I've got to leave you, baby, 'cause you talk too much for me. You got the whole town after me, I'm in a hurry, can't you see? But baby, before I go, I got to have a good talk. Keep your mouth shut before I take you out for a long, long walk. That's a long ways home, baby, but I've got to go. I'm gonna leave here running, 'cause walking is much too slow. All right, gonna try. Shut your big mouth, don't say a word. We're gonna fight right now for some stuff I heard. Get over that corner, pull off your coat before I take my knife and cut the dog. Don't talk. It's a long way home, and baby, I've got to go. I'm gonna leave here running, 'cause walking is
on dirait vraiment Raylance jouant le blues. Hein.
Ah oui, c'est
vrai. Formidable, ils ont un peu le même son,
et
les mêmes harmonies, c'est épatant. Mais c'est vraiment un surdoué ce type, hein. Il est aussi bon sur tous les instruments.
Tous les instruments dont il joue. Durant la deuxième moitié des années 60, l'activité musicale de Clarence se réduit sensiblement, à tel point qu'il exercera quelque temps la fonction de shérif adjoint dans une ville de l'État du Nouveau-Mexique.
Bien shérif.
C'est un Français qui va relancer la carrière musicale de Clarence Brown. En effet, en créant dès 1970 les tournées annuelles du Chicago Blues Festival, le bordelais Jean-Marie Monestier a fait découvrir au public européen une foule de grands artistes de blues, dont Clarence Brown, lors de la tournée européenne de 1971, où ses qualités de showman, son humour et bien sûr son aisance musicale tant à la guitare qu'au violon et à l'harmonica ont conquis un large public. Abondamment enregistré par le label Black & Blue de ce même Jean-Marie Monestier, Clarence Brown va participer à diverses sessions cette année-là sous son nom, mais aussi aux côtés des participants de cette fameuse tournée. Le voici par exemple enregistré le 30 novembre 1971 dans le recueil Bad Luck Blues du savoureux et facétieux pianiste-chanteur Cousin Joe. Clarence intervient brillamment dans ce « I don't want no second hand love ». Cette formation est complétée par Jimmy Dawkins à la guitare, Mark Thompson à la basse et Ted Harvey à la batterie. « I don't want no second hand love ».
don't want no second-hand love. I want the real thing. I don't want no second-hand love. I want the real thing. I don't care if she's big and fat, just so she's tight like that. I don't want no second-hand love. I want the real thing. Imitation. I want the real thing. And if you knew my situation, you know I want the real thing. I don't care if she's long and tall, sleeps in the kitchen with her feet in the hall. I don't want no second-hand love. I want the real thing. Go, rock, go. Situation, you know I want the real thing. I don't care if she's low and squatty, that suit most anybody. I don't want no secondhand love. I want the real thing. Yeah, yeah, yeah. I don't want no secondhand love. I want the real thing. I want the real thing. I don't guess she's big and fat, just so she's tight like that. I don't want no second in love. I want the real thing. I don't want no imitation. I want the real thing. And if you knew my situation, you know I want the real thing. I know she built up from the ground, but she don't weigh but 90 pounds. Girl, I know I want the real thing.
Tu te souviens, Claude Alain, on avait vu donc cette tournée avec ce... Oui. Formidable chanteur qui était Cousine Jo. Et lors de cette même tournée, il y avait bien sûr Clarence, il y avait aussi le légendaire Big Joe Williams. Enfin, c'était des tournées absolument extraordinaires, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on a connu des choses exceptionnelles.
Sous son nom, donc, Clarence Brown enregistre le 30 novembre suivant le recueil The Blues and Nothing, avec à ses côtés Mickey Baker et Jimmy Dawkins à la guitare, Mac Thompson à la basse et Michel Denis à la batterie. Voici l'excellent New Okie-Dokie Stomp, une reprise d'un instrumental que Clarence avait gravé en 1954, que je vous avais fait écouter donc la semaine dernière. New Okie-Dokie Stomp. Thank you. Dans If I Get Lucky, issu de ce même recueil, on pourra apprécier le vocal vibrant de Clarence Brown et sa belle prestation non seulement à la guitare, mais aussi à l'harmonica, dont il est un des meilleurs représentants.
That's all right, woman. Texas. That's where I belong.
En 1973, toujours sous les auspices de Jean-Marie Monestier, Getmans revient en Europe aux côtés du grand tromboniste Al Gray, avec qui il avait enregistré dans les années 50. Black and Blue ne manque pas d'enregistrer abondamment Clarence dans ce nouveau contexte plus jazzy. En voici un exemple où Clarence Brown se produit aux côtés de Xavier Chambon à la trompette, Al Gray au trombone, Michel Attenoux à l'alto, Hal Singer au ténor et Stan Hunter à l'orgue, Chris Columbus à la batterie. On écoute Here I Am, enregistré le 20 mars 1973. Ça, c'est chouette.
Here am I, here am I. Feeling sad, feeling sad, feeling sad. I just lost the best woman I ever had. Fool I've been, fool I've been, fool I've been. Drove her away, drove her away, drove her away. She left town early this morning. My heart been hurting me all day. Here am I, here am I. All along, all along, all along. What to do, what to do? To bring my baby back home. Oh, yeah.
Son solo de guitare est fantastique.
Oh, formidable. Hein. Ah ouais. En juillet 73, donc de cette même année, Getmans participe à la grande parade du jazz de Nice et intervient dans divers enregistrements d'albums de jazzmen renommés tels Arnette Cobb, Candy Johnson, Jay McShann, Mill Buckner, ainsi qu'un micro-sillon avec la chanteuse Hélène Humes. Il signe également sous son nom un recueil en hommage à Louis Jordan, et un second, non moins excellent, Cold Strange. Il se rendra une nouvelle fois en France au Festival de Nice en 1977 et enregistra pour l'occasion un recueil que, personnellement, j'apprécie beaucoup, intitulé « Heat Wave », album consigné avec le très grand et très sous-estimé pianiste Lloyd Glenn. Ils sont accompagnés, excusez du peu, par Miltinton à la basse et Jesse Heard à la batterie. Voici tout d'abord « Heat Wave » où Lloyd et Clarence montrent une fraîcheur d'inspiration, une aisance et une richesse mélodique de tous les instants. « Heat Wave ». Oui, tu peux me le dire, répéter ce que tu m'indiques, Claude Alain.
Oui, je disais que Lloyd Glenn était vraiment un pianiste très original parce qu'il joue les figures de Boogie comme personne d'autre et donc on le reconnaît immédiatement. Hein.
Ouais. Pour terminer, nous écouterons, tiré de ce même recueil, un petit chef-d'œuvre, Lover Call, où l'on peut admirer tout au long de ce blues une figure rythmique d'une belle musicalité du grand Miltinton que complètent avec pertinence Lloyd Glenn et Clarence Brown, sans oublier les solos intensément blues par Lloyd et Clarence. Lover Call. Un climat particulier dans ce blues.
Oui, c'est tout à fait. Et alors, dans les nuances qu'il y a dans le jeu de guitare de Clarence, c'est extraordinaire.
Très, très beau. De retour aux États-Unis, Clarence a continué à se produire dans de nombreux festivals et a enregistré sous son nom mais aussi aux côtés d'artistes tels Jimmy Cheatham, Noble Watts ou Russ Brown. Il est décédé à l'âge de 81 ans le 10 septembre 2005 à Orange, dans le Texas, là où il avait passé son enfance.
C'était Swing Time 2016. Or, en telle, l'émission continue quand même, hein ? Ouais. Un petit peu.
Mais bien sûr, ouais, mais bien sûr, Martine.
Alors, pour tous les auditeurs, vous les retrouvez la semaine prochaine ?
Mais absolument. Hein, mais
les Meurs Mansion.
Quand on parle de blues ou de jazz, c'est vrai qu'on ne s'arrête plus jamais.
Ah, hein, c'est, ils sont intarissables. Puis Dominique nous a rejoint pour écouter de plus près Clarence.
Ah ben oui. Et oui, et
Dominique, que femme, hein.
Cette émission lui est dédiée.
Oui, c'est vrai, Dominique, elle était pour toi. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Martine.